il y a une vie après Normal.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Thibaut.
Bonjour Anne-Laure.
Et bienvenue dans une nouvelle émission de la rubrique Normal Sup intitulée « Il y a une vie après Normal ». Le principe de cette émission est très simple. À l'heure où l'agrégation est compromise et où certains se disent parfois que l'enseignement et la recherche, ce n'est peut-être pas leur truc.
Eh bien, il s'agit de vous montrer quelques parcours atypiques de nos valeureux prédécesseurs qui mènent une vie épanouie et riche, comme vous allez le voir. Et pour ce premier numéro, nous vous avons gâté avec une personnalité qui vous sera sans doute familière. L'icône radiophonique de l'ENS de Lyon est au centre de ce premier numéro.
Bonjour à tous, bienvenue sur Inter.
France Inter, 6h30, 10h. Nicolas Demorand.
Semaine politique.
Et oui, c'est Nicolas Demorand qui a accepté de nous recevoir pour cette première émission juste après sa matinale du lundi 8 mars. Au centre de l'actualité ce jour-là, la journée des femmes, la cérémonie des Oscars et le début d'une semaine très politique du fait de l'imminence des élections régionales. François Bayrou était ainsi l'invité de Nicolas Demorand, Thomas Legrand et Bernard Guetta.
Nous sommes arrivés à la maison Radio France à 6h du matin, direction les studios de France Inter au 7e étage. Il faut préciser que nous connaissions déjà les lieux, car nous nous y étions rendus un mois plus tôt. Mais ce matin-là, Nicolas Demorand était souffrant et Pierre Veil le remplaçait. Notre interview était tombée à l'eau, Thibault.
Mais cette fois, elle a marché. Et confortablement assis sur le canapé du studio, nous avons assisté à l'émission avec un Nicolas très en forme, carnassier avec ses invités. Et après 3 heures d'émission en direct menée à un train d'enfer, Nicolas Demorand a répondu à nos questions dans son bureau.
On l'écoute. Bien bonjour Nicolas Demorand et merci de nous recevoir à France Inter dans votre bureau même.
Qui est un sacré bazar, hein, vous pouvez le voir.
Avec beaucoup de livres,
on peut
le remarquer, on reconnaît le bureau de Normalien. Donc la matinée est à peine entamée, mais en ce qui vous concerne, votre journée est déjà presque terminée. Comment s'est passée cette matinale?
Oui, c'est vrai, il est 9h42, donc on vient de terminer l'antenne il y a 7 minutes. C'était une matinale à la fois classique et un peu spéciale. Classique parce qu'elle ressemble à toutes celles qui ont précédé. Un peu spéciale parce que on entre dans une semaine très politique puisqu'on est à quelques jours du premier tour de l'élection régionale. François Bayrou ce matin, Daniel Cohn-Bendit demain, Martine Aubry mercredi, Marie-Georges Buffet jeudi, Xavier Bertrand vendredi. On reçoit cette semaine tous les chefs de parti pour un paysage avant la bataille, quoi. Et la matinale était plutôt agréable à animer. J'espère qu'elle était agréable à écouter, agréable à animer parce que voilà, je pense que ça se perçoit, un vrai plaisir et une grande proximité entre toutes les personnes qui font cette émission. Et François Bayrou, on l'avait pas vu au micro de France Inter depuis très très longtemps, depuis plusieurs mois, et il était dans un moment politique très particulier, donc l'un dans l'autre, tout ça faisait une émission plutôt intéressante.
Et puis vous étiez plutôt bien entouré.
De quel point de vue?
Thomas Legrand,
Guetta. Thomas et Bernard, donc le chroniqueur politique de la matinale, et Bernard, le spécialiste de politique étrangère et d'Europe. J'ai voulu depuis longtemps, mais ça se formalise un peu cette année, faire du dernier moment de l'émission qui était jusque-là entièrement consacré aux auditeurs, d'essayer d'articuler en fait différentes paroles, la parole des auditeurs bien entendu, la parole de l'invité aussi, et la parole des journalistes de la rédaction de France Inter. Comme ça on fait de la co-interview et on essaye de composer un petit espace public pour que ces registres de parole qui se rencontrent très très rarement en fait, politique, journaliste si bien entendu, mais politique, auditeur, journaliste, pour que ce monde-là puisse dialoguer. Et donc voilà, ça fait des échanges en plus qui sont parfois un peu durs, un peu musclés et très radiophoniques.
Alors on voudrait retracer un petit peu votre parcours puisque l'émission s'intitule « Il y a une vie après Normal ».
Oui.
Alors donc vous avez commencé par la prépa et
oui.
Puis l'ENS de Fontenay.
Oui.
Et le journalisme. Alors ce parcours, Anne-Laure et moi on l'a suivi, on espère qu'on le suivra encore un petit peu.
Du coup, moi, j'aimerais savoir ce que ça vous fait de vous retrouver face à deux demeurants en puissance.
quelque chose de très étonnant, pardon. Et en même temps, j'en suis très heureux. Je m'explique. Moi, je suis rentré en 92 à Normal Sup. 92, ouais. Oui, c'est bien ça. C'était il y a longtemps. Waouh. Hein. Wow.
Donc je suis rentré. Pas un perdreau de l'année.
Oui, oui, non, je suis pas un perdreau de l'année. Loin de là. Je suis rentré en 92. J'avais un certain nombre d'amis, soit qui étaient déjà normaliens, soit qui étaient en cagne avec moi en prépa. Et on a très rapidement eu l'envie de faire quelque chose dans les médias. Alors pour certains c'était la presse écrite, pour d'autres c'était à l'intérieur de la presse écrite, la critique d'art. Moi j'avais plutôt envie de faire de la radio et de la télé. Enfin, on avait ces envies-là, mais on était très très seuls en fait. Et c'est pour ça que je suis content de vous voir, parce que les choses évoluent. Et nous, quand à l'époque on était normaliens avec l'envie de travailler dans le journalisme, il fallait qu'on trace notre route tout seul, dans une assez grande solitude et même dans une assez grande adversité. Parce que à l'époque, je sais pas ce qu'il en est très précisément aujourd'hui, mais je crois que là aussi ça bouge. À l'époque, ces parcours-là, et surtout dans les médias, ces parcours-là étaient peu appréciés et vraiment pas encouragés. Donc je pense qu'il y a une place, on va pas dire une place pour les normaliens dans les médias, mais qu'il y a une place pour d'autres parcours que les parcours classiques, canoniques, académiques des étudiants sortis d'école de journalisme. Le métier, la profession et du coup la richesse du débat public gagnent à ce que des profils très multiples puissent écrire dans la presse, parler à la télé, etc. Donc je suis très heureux de vous voir et de vous rencontrer.
Alors, cette formation de normalien, vous dites dans les interviews que vous avez données qu'elle vous a surtout apporté une capacité de travail, que vous avez beaucoup travaillé.
Oui.
Vous le faisiez avant, ça vous a vraiment appris, et est-ce que c'est la chose principale que vous a apporté cette...
Oui, j'ai appris, alors pour rendre à César ce qui lui appartient, j'ai appris en fait en prépa à travailler. Puisque les premières années à Normal Sup, on apprend à ne plus travailler. Mais en tout cas, en prépa, oui, j'ai appris à travailler, c'est-à-dire travailler beaucoup de manière relativement organisée. Considérer, c'est ça ce qu'on apprend aussi en prépa, que cet aspect-là des choses est tout à fait normal et que c'est même la vie. Et on apprend la culpabilité aussi quand on ne travaille pas. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Chaque minute de loisir étant considérée comme un moment volé à l'étude. Bon, donc ça, c'est une sacrée formation de ce point de vue-là. Ensuite, comme je vous le disais, à partir du moment où, à mon époque, au début des années 90, il fallait se démerder seul, pour le dire très simplement, il fallait travailler énormément pour sortir en fait du parcours classique du normalien. Et pour moi, ça a voulu dire essayer déjà d'entrer quelque part. J'ai envoyé des dizaines, des centaines de lettres de motivation partout, des CV. Jamais eu aucune réponse, sauf une de France Culture qui m'a permis de rentrer à la radio. Et une fois qu'on a la chance de pouvoir faire quelques petites choses, eh ben, ça veut dire travailler en permanence pour apprendre un métier que d'autres ont pu apprendre en école de journalisme, pour se former, pour apprendre à parler dans un micro, pour ensuite apprendre à faire la télé, apprendre à écrire en presse écrite de manière à pouvoir être publié, essayer de comprendre ce que c'est qu'un format. Bref, repartir au départ. En fait, pour moi, ça a été à 26 ans, recommencer à zéro.
Mais avant ce nouveau départ, vous avez quand même enseigné quelques temps.
Oui.
C'était un vrai désir, ou alors il fallait le faire après Normal Sup? Et du coup, c'était un passage obligé.
Ça a été un hasard pour moi, l'enseignement au début, en tout cas. J'étais dans mes années de normalien et je savais pas trop. Je savais que j'avais pas nécessairement envie d'enseigner toute ma vie. Je me posais la question de la recherche, qui était une question difficile à l'époque, parce que la pyramide des âges était défavorable aux normaliens dans ces années-là, et donc il était très difficile d'avoir un poste en fac. Mais enfin, je savais pas trop. C'est aussi ça la liberté qu'offre Normal Sup dans ces années. Je savais pas trop. Bon, donc je m'étais dit que j'allais passer Sciences Po pour temporiser encore. en me disant que ça rouvrirait le jeu, que ce soit vers d'autres concours de la fonction publique, que ce soit vers, je savais pas trop quoi. Bon, et donc je me suis retrouvé, comme je pensais être rouillé en fait après la prépa, je me suis retrouvé dans une prépa comme étudiant et comme élève étudiant préparant un concours. J'ai rendu une copie de philo, de culture G comme on dit à Sciences Po, et j'ai été embauché comme prof en fait instantanément. Donc je suis passé des bancs à l'estrade, et c'est comme ça que j'ai commencé à enseigner à 23 ans. Et à enseigner donc en prépa Sciences Po d'abord, prépa HEC ensuite. Et ça a été 5, 6, 7 ans très dur, très là aussi sur le plan du travail, sur le plan du rythme de vie, c'était des rythmes extrêmement soutenus. Je me souviens, je travaillais tous les étés notamment, enfin toute l'année et tous les étés avec des journées de 12 heures de cours. Ensuite, j'ai enseigné à des gens qui étaient plus âgés que moi. Donc c'était des moments très très formateurs. Donc voilà, j'ai commencé à enseigner un petit peu par hasard, dans des conditions qui étaient des conditions de rêve, puisque en classe prépa, vous n'êtes pas obligé de faire la démonstration de l'importance qu'il y a à travailler, à apprendre, etc. Vous avez des étudiants qui sont mobilisés, qui sont déjà grands, qui sont mobilisés autour d'un objectif qui est un objectif de concours. Donc vous avez un public qui est un public formidable, quoi. J'ai enseigné ensuite 2 ans dans le secondaire, une année en lycée technique, une année au collège. Et là, ça a été moins facile, moins agréable, parce que je ne savais pas faire. En tout cas, j'avais ce sentiment très fort de ne pas être compétent pour ce qu'on me demandait de faire, d'avoir appris à faire de la recherche en littérature, à multiplier les cursus. J'ai fait de l'histoire de l'art, j'ai fait de la philo, etc. Et je me retrouvais en lycée, ça allait encore, mais au collège, face à des enfants, en fait, parce que j'avais toute petite classe, face à des enfants à qui il fallait apprendre à grandir, au fond. Et je ne savais pas faire. La discipline, je ne savais pas faire. Le flicage, je ne savais pas faire. Crache ton chewing-gum, je ne savais pas faire. Tutoyer les élèves, je ne savais pas faire. Voilà, donc ça a été là une expérience plus difficile. Et j'étais là de toute façon à un moment où je commençais à en faire de plus en plus à la radio et en presse écrite, et où j'étais lentement mais sûrement en train de sortir de l'enseignement.
Donc pendant toute cette période, vous aviez déjà l'idée de journalisme derrière la tête.
Oui, oui, parce qu'elle s'est, elle s'est imposée en fait en deux temps, c'est-à-dire que vous vous apercevez très très vite de la nature exacte de votre rapport aux médias. Est-ce que je sais pas, vous lisez le journal juste pour vous informer, vous écoutez la radio pour avoir un bruit de fond et vous regardez la télé pour avant de vous endormir, ou est-ce que vous avez une démarche active face à cette pratique des médias? Moi, j'étais frustré, ça ne me suffisait pas en fait. Donc à un moment, je travaillais en parallèle sur les écrits journalistiques de Zola. Donc mon frère était journaliste à Europe 1 et j'étais complètement en transe quand je l'entendais à la radio. J'avais donc ces amis avec qui on faisait des maquettes rapides d'émissions, de vraies fausses émissions, de vrais faux magazines culturels, etc., avec un matériel qui était vraiment moins sophistiqué que le vôtre, qui était un vieux magnéto. Bon, donc tout ça faisait, il y avait un type dans le paysage qui était Michel Field, qui faisait Le Cercle de Minuit, qui était une émission qu'on regardait tous ensemble, qui avait un parcours totalement différent, qui venait de la philo, qui était agrégé. Bref, il y avait un certain nombre de choses qui faisaient que je réfléchissais beaucoup à ça. Et ensuite, et ça c'est l'une des grandes règles, quand on n'a pas fait d'école de journalisme, et aujourd'hui avec les nouveaux outils numériques, je pense que c'est très important. Bon, ensuite voilà, vous commencez à écrire au courrier des lecteurs dans un premier temps, puis à trouver un endroit. On avait monté une revue avec des potes à Normal Sup, donc on s'essaye à l'écriture à ce moment-là, puis aux autres aspects de la presse écrite. C'est pas la presse écrite, c'est une petite revue, mais les questions de maquette, les questions de financement, les questions d'abonnement, démarcher les gens. Enfin bon, voilà, on y vient lentement, lentement mais sûrement. Et ensuite, comment dire, le fait de pouvoir enseigner en année de stage d'agrég, c'est une charge d'enseignement qui est très légère. Ça vous permet d'avoir la liberté pour pouvoir faire autre chose. Vous faites vos cours, vous corrigez vos copies, et puis ensuite, rien ne vous empêche l'après-midi, le soir, le matin, pendant les vacances, d'aller dans une rédaction, d'aller dans une radio et de commencer vraiment à faire des choses, quoi. Le moment difficile, c'est le moment où vous pouvez totalement basculer. C'est-à-dire que tant que vous pouvez cumuler, entre guillemets, votre salaire de prof, votre vie de prof et quelques travaux journalistiques, bah pourquoi pas. Mais si vous avez vraiment envie d'exercer pleinement le métier de journaliste, vient un moment où vous dites est-ce que je peux en vivre, quoi, tout simplement. Et c'est une question qui était déjà présente, évidemment, moi, à mon époque, et qui l'est d'autant plus aujourd'hui que les médias sont en crise.
Donc, vous n'avez pas fait d'école de journalisme. Pourquoi ?
Non.
Et est-ce que ça vous manque ?
Alors, j'ai pas fait d'école de journalisme. Mon frère, lui, a fait le CFJ et m'avait dit, moi, je venais de rentrer à Normal Sup, et il m'avait dit, viens, on va faire le CFJ ensemble. Moi, j'étais encore dans ces histoires d'agrég, la passer, ne pas la passer. Donc, je savais pas trop encore comment organiser les quelques années que m'offrait Normal Sup. Donc, j'ai pas fait d'école de journalisme. Ça m'a, je pense. Fait perdre du temps parce que quand vous ne faites pas d'école de journalisme, bah, vous devez apprendre de A à Z un métier. Et je peux vous dire que mes premiers jours, mes premières semaines à France Culture étaient vraiment très très difficiles de ce point de vue-là, parce que on vous dit, bon bah toi t'es là, tu fais rien, prends un agra, prends un magnéto et va faire l'interview de machin, celui qui devait la faire est malade donc il ne peut pas la faire. Vous ne savez pas vous servir d'un magnéto. C'était des magnétos à bande à l'époque, donc je savais même pas où mettre la bande, je savais pas comment ça se déclenchait, j'avais peur de pas enregistrer, le niveau de l'enregistrement était pas bon. Bon, donc ensuite le montage, comment vous montez, vous êtes là avec vos ciseaux, mais les ciseaux sont pas les bons ciseaux, vous coupez n'importe comment, vous perdez une partie de l'interview. Donc, si vous voulez, vous n'êtes pas employable tout de suite. Ensuite, vous vous retrouvez devant un micro. Alors, comme c'était France Culture, il y avait de fortes chances que je me retrouve avec des gens dont j'avais lu les livres, ou au début, vous commencez comme ça à France Culture, vous proposez des sujets qui sont proches de vos préoccupations intellectuelles d'avant, donc vous commencez à rivaliser avec votre invité, vous comprenez pas quelle est la position du journaliste par rapport à la personne que vous avez en face de vous. Vous faites des concours d'intelligence. Et moi, Antoine Spire, qui m'avait recruté à France Culture, m'avait dit, mais si tu veux faire des concours d'intelligence avec les invités, va faire une thèse, retourne à la fac, on n'est pas là pour faire ça. Donc, vous devez apprendre aussi ce qu'est la position très particulière du journaliste, de l'intervieweur. Ensuite, il faut apprendre à parler dans un... Bref, ça prend des années, des années, des années avant que vous ne trouviez votre voie, comme on dit dans les écoles de journalisme. C'est-à-dire qu'avant de vous sentir à l'aise, avant que, comment dire, la prise de parole, la situation même d'être dans un studio face à quelqu'un, que tout ça soit acquis et que vous puissiez vraiment faire votre métier, quoi. Ça prend beaucoup de temps et vous pouvez l'apprendre en 6 mois dans une école de journalisme.
Donc vous avez vraiment l'impression d'avoir basculé plutôt que d'y avoir une continuité entre la formation que vous aviez, entre l'enseignement et votre métier d'aujourd'hui ?
Alors, la bascule, je peux la situer très précisément.
À quel moment la vie de Nicolas Demorand a-t-elle basculé ? C'est ce que vous brûlez de savoir, mais pour cela, il faudra attendre la deuxième partie de l'émission sur le player suivant.
Mais en attendant, un peu de musique avec le Et Misericordia du Gloria de Vivaldi.